Merci beaucoup pour vos trois interventions, parce que je trouve qu'elles arrivent déjà dans cette matinée à dessiner ce qui nous semblait important dans cette journée d'études sur les œuvres animées, à dessiner toute la complexité, toute la densité, tout l'éclectisme qui se tient dans ce terme de l'animation. Donc on a bien vu à la fois avec la présentation de Marie-Thérèse Champem sur Vision Fugitive que c'est une exposition qui elle-même regroupe un certain nombre d'œuvres très éclectiques, et justement ma question sera sur ce point. Comment fait-on pour essayer d'équilibrer, donc vous avez mentionné cette intention à la fois de donner à voir les œuvres primitives, hein, celles qui fondent l'animation, et en même temps, voilà, c'est un musée, donc le but aussi c'est d'exposer des œuvres plus contemporaines. Comment réussit-on à équilibrer les pratiques dans un cadre temporel qui est celui de la contemporanéité? Est-ce qu'on y pense, ou est-ce que finalement, ce sont plutôt les axes qui, on va dire, vous entraînent, vous engagent à aller là du côté de la synthèse, là du côté du dessin, là du côté de la vidéo. Comment ça se passe pragmatiquement? Est-ce qu'on se dit qu'il faut penser l'éclectisme, ou est-ce que finalement ce sont les axes qui ancrent vers des pratiques?
Je pense que la question est posée au commissaire d'exposition. Comment on fait pour choisir? Je crois qu'il y avait un désir préalable tout à fait délibéré chez Pascal Prenier, notamment, de montrer une diversité d'œuvres. Ensuite, ça s'est fait de manière très intuitive. On n'a pas travaillé sur des quotas. Il n'y a pas. On a choisi les œuvres qui nous semblaient cohérentes avec le propos qu'on avait envie de... Enfin, le propos qu'on avait envie de tenir, c'est pas exactement le terme, mais ce sur quoi on avait envie d'insister par rapport aux œuvres d'animation. Et puis ce qui était des coups de cœur artistiques. Enfin, on a choisi les œuvres d'abord parce qu'on les aime, qu'on les trouve belles, qu'on les trouve novatrices, qu'on les trouve extrêmement, extrêmement différentes, mais pas par une volonté de différente. Mais différentes parce qu'elles témoignent tous de personnalités très fortes d'artistes. Pour moi, un artiste, c'est effectivement quelqu'un qui invente des formes. Et par conséquent, des tempéraments forts, ce qui explique aussi la diversité. Je crois que le but d'une exposition de groupe, pour moi, n'est pas de rabattre les artistes les uns sur les autres ou de les faire illustrer un thème. Si c'est ça, c'est pas intéressant. Ce qui me semble intéressant, c'est au contraire d'essayer de faire apparaître la diversité, la dynamique, le mouvement qu'il y a à l'intérieur même de la création. Alors, par rapport à la question des œuvres anciennes, bon, ça s'est résolu de manière, je dirais, un peu simple, voire simpliste. On n'a pas du tout cherché à faire des allers-retours entre les époques. On s'est contenté d'avoir un salon réservé à des œuvres qu'on considère comme les pionniers de l'animation, avec quatre œuvres, Fantasmagorie, sur lesquelles je ne reviens pas, deux œuvres d'artistes qui nous semblent tout à fait intéressantes, extrêmement différentes du cartoon américain qu'on vient de voir, qui sont les œuvres de Bartosz et d'Alexeïev, parce que les techniques qu'ils avaient utilisées, qu'ils avaient créées eux-mêmes, qui relevaient d'un bricolage, je crois qu'on aime bien aussi que les artistes bricolent et inventent des trucs qui sont pas les trucs industriels. Je crois que c'est une petite tendance qu'on peut avoir quand on travaille avec des artistes contemporains. Mais également un film de McLaren qui n'a rien à voir avec les films dessinés sur la pellicule qu'on connaît, et qui part aussi d'une peinture. On les a choisis parce que nous semblaient cohérents dans l'esprit, dans la forme, dans le thème, avec cette question des visions fugitives. Et c'était plutôt, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'animation, regardez ça aussi, parce que dans les années 30, il s'est passé des choses absolument formidables en inventivité. Avec aussi le questionnement sur aujourd'hui, comment des artistes... J'ai pas eu le temps de parler de tout le monde, j'ai pas eu le temps de parler de Robert Breer, et vous avez remarqué que c'est une œuvre absolument magnifique, le travail sur le rythme qui suit peut-être celui du défilement du train est tout à fait exceptionnel. Mais j'ai pas non plus parlé de Clintens, qui est un... une sorte de geek canadien, docteur en mathématiques, qui s'amuse à récupérer toutes sortes de choses, à les bidouiller à travers des vieilles machines, à utiliser une Game Boy pour repasser un film de famille au milieu, et qui se réfère clairement à toute l'avant-garde de la période des pionniers, ou depuis à tout le cinéma expérimental, qui a fait des films qui sont explicitement annoncés comme des hommages à Richter, des hommages à Brakhage. Et c'est ça aussi qui nous intéresse, je dirais, c'est qu'à toutes les époques, il y a des gens qui, à partir de ce qui existe à leur époque, vont bricoler, oui, cette esthétique du bricolage, je crois qu'elle est importante aussi, vont bricoler, vont hybrider, et vont s'écarter des sentiers battus, à la fois esthétiques et à la fois d'un point de vue formel, mais aussi d'un point de vue de l'utilisation des machines, d'un point de vue du discours. Et il y avait aussi l'idée d'essayer de retrouver ça et de voir comment cette inventivité artistique, quelles que soient les techniques et les époques, c'est ce qui permet la création artistique.
Merci. Ma deuxième question, elle s'adressera aux deux autres intervenants, à Patrick Barrès et à Dick Tomasovic, partant sur plusieurs remarques de Patrick Barrès qui, moi, m'ont interpellée et qui, du coup, m'ont interpellée aussi à l'écoute et à la vision des choses proposées par Dick Tomasovic. C'est cette idée, finalement, qu'autour de la question de la poétique des traits, qu'il y a une forme d'invention. Alors c'est un terme sur lequel ce serait extrêmement intéressant de revenir, mais on n'en aura probablement pas le temps. Mais l'idée qu'il y a une création, ou en tout cas l'invention peut-être d'un espace plastique, et par un différent jeu, comme tu l'as bien montré, un différent jeu sur les textures, et surtout ce qui m'intéressait, c'est sur le renversement des présupposés de la Gestalt. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse, et notamment un de ces présupposés qui est totalement renversé, c'est la distinction figure-fond, puisque là on voit bien que figure et fond se mêlent pour créer, probablement pour faire émerger cet espace plastique. Et du coup, la remarque que je me faisais, c'est dans les films que tu nous as montrés, Dick, on a l'impression qu'il y a, bien au contraire, toujours cet ancrage gestaltiste de la figure dans le fond, mais à tel point que l'idée que je me posais, c'est de quelle manière le corps dansant de l'animation crée-t-il l'espace ? En tout cas, vraisemblablement, sauf pour La Joie de Vivre, les films, les extraits de films que l'on a vus n'utilisent pas l'espace autrement que comme un décor, comme un milieu. Dans La Joie de Vivre, ce qui constitue un décor, le fond, n'est pas seulement le milieu dans lequel les danses se font, mais influence aussi le mouvement des personnages dans ce que je me souviens de ce court-métrage. Donc ma question, elle va un peu traverser vos deux exposés. C'est finalement, pour Patrick Barrès, est-ce que cette invention de l'espace plastique n'est pas en quelque sorte le, non pas le programme, hein, ça, je pense qu'on partage ce point de vue, mais en quelque sorte une forme d'horizon absolu du cinéma d'animation, et qui en ferait une catégorie d'image très particulière, très singulière. Et pour Dick, quel est le rapport que les corps dansants peuvent entretenir avec la promotion d'un espace, d'une image particulière de l'animation?
Bon, vaste programme autour de la question. Oui, déstabiliser les présupposés de la Gestalt, effectivement, cela revient à rompre avec ce régime très souverain et souterrain d'une forme sur un fond. Le fond, en termes des lignes dures d'une certaine sémiologie, ou de la pensée de René Thom, par exemple, qui fonde aussi elle-même une certaine sémiologie au Canada en particulier, c'est que le fond présente un statut de fond indifférencié. On est là sur quelque chose qui prend à partie la notion de transparence, bien sûr, et fait le lien avec ce qui avait été dit par rapport à, aux voies très classiques de construction de l'espace et à tout le régime perspectiviste autour de la perspective artificielle. D'accord. Et ce qui est valorisé avec ces ressorts-là, c'est justement l'opacité qui fait qu'il n'y a plus de stratification, comme on a pu le voir dans certaines choses que tu as montrées. Il n'y a plus de stratification, il n'y a plus de hiérarchisation, il n'y a plus de focalisation privilégiée dans la manière de faire, d'où l'angle du point de vue théorique et du cadre épistémologique de la poétique, pas nécessairement à rebours d'une sémiologie ou d'une sémiotique, mais à condition, enfin, comme possibilité de repartir sur ce faire, sur ce qui est vraiment à l'œuvre. Du coup, on ne va pas parler de forme, on ne va pas parler de fond, on va parler de matériaux, on va parler d'autres termes. Néanmoins, je pense qu'on pourrait, c'est un autre, c'est le corollaire, on pourrait revisiter la sémiologie en confrontant les modèles sémiologiques entre eux, de l'analyse classificatoire du groupe mu, de l'approche plus complexe, au sens de la complexité que développe Fernand Saint-Martin, ou d'autres termes, et je pense, je lance une idée comme ça, autour de l'organisation du signe, suivant la pensée de Louis Hemsleff, en termes de matière, forme et substance attachées à un plan de l'expression, à un plan du contenu, à condition de maintenir là encore, après je vais arrêter là-dessus, condition de maintenir là encore, l'idée qu'avance un peu le groupe mu, mais bon voilà, ça va pas non plus plus loin, d'une autonomie du signe plastique, de la possibilité de faire qu'il n'y ait pas comme homologation entre le signe plastique et le signe iconique. Ça veut dire le signe plastique, ce qui se rapporte au registre plastique, est signifiant. Et là, il y a un texte qui m'a toujours bouleversé, j'aurais pu citer quelques phrases, c'est Roland Barthes, c'est de voir comment les sémiologues eux-mêmes qui théorisent vont corriger, rectifier ce chemin théorique à tout bout de champ. Roland Barthes, quand il s'intéresse au travail de Twombly, et qui dit dans la première phrase, en 79, et tout de suite, une gêne de langage survient, il faut inventer d'autres mots pour le dire. Voilà, voilà. Je m'arrête là, hein, parce que sinon...
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Et ta question aussi me renvoie à l'hésitation première par rapport à mon intervention d'aujourd'hui. Chaque fois que l'on parle de cinéma d'animation, on est, je crois que tu seras d'accord avec moi, on est systématiquement obligé de bouleverser tous nos cadres de réflexion. Et tous ceux qui ont essayé d'écrire un jour sur animation savent à quel point les mots viennent à manquer face aux expériences qui sont plastique, audiovisuel, cinétique, enfin tous les termes que vous voudrez. Et au départ, si je suis arrivé à la réflexion, à me dire que finalement la danse pouvait m'aider à décrire et donc du coup analyser et penser avec certaines images, c'est précisément parce qu'il me manquait un vocabulaire. Il y a toute une frange du cinéma d'animation très très importante, qu'on pourrait dire expérimentale si l'on veut, mais où en tout cas, on voit bien que tous les termes de l'analyse du langage, du cinéma, ne peuvent plus fonctionner, absolument pas. Donc on doit prendre un autre registre. Alors, on peut aller chercher les arts plastiques, de fait, on trouve beaucoup de choses, mais il nous manque la dimension cinétique. Pour moi, Patrick Barret, c'est l'une des rares personnes, justement, qui parvient à absolument lier les choses, et son approche est fondamentale de ce point de vue-là. Et c'est vrai que moi, un film comme Schwitz Goebel, je peux très bien rentrer dedans et l'analyser à partir de mes concepts de danse. Je veux dire, le film qu'on a vu tout à l'heure, ça marchait très bien. Et au départ, en fait, je pensais venir à une intervention plutôt sur cet aspect-là. Puis, je me suis dit que finalement, la figurine, c'était manifeste qu'elle danse, mais on ne disait pas grand-chose, et j'ai attaqué la figurine. Mais quand on voit, même les films que j'ai pu montrer, c'est parce que je vous ai montré des moments relativement ordonnés du point de vue de la mise en scène classique cinématographique, avec un personnage, un fond, hein, quelque chose même qui renvoie, comme dans les Betty Boop, au vaudeville comme référent principal de la mise en scène du début du cinéma. Si je vous montre le film entièrement, vous allez voir que très vite, dans tous ces cartoons, à un moment donné, cela dérape. C'est-à-dire que l'effet même de travail image par image, le travail de métamorphose, fait toujours qu'à un moment donné, personnage et fond, enfin référent tel que vous voulez, enfin figuration d'image, est mise en péril, bascule et arrive dans un autre registre. Hein. On le voit même une fraction de seconde quand Betty Boop arrive face à la montagne et que le vieil homme l'accueille. Il arrive, hein, c'est quelque chose, c'est une figure très, très typique du cartoon des années 20 et 30. Hein. Tout d'un coup, le visage du personnage vous engloutit, on arrive dans un espace tout à fait abstrait, il faut reconstruire cet espace ensuite. Et dans les deux autres films avec Cab Calloway et Betty Boop, le moment de la chanson est une série de métamorphoses qui transforme complètement les figurines, mais qui aussi interagit avec le fond. Et donc, on dirait que ces cinéastes des cartoons doivent souvent presque résister en fait, à l'appel de la matière pour réussir à ordonner leurs cartoons de manière classique. Donc, je pense qu'il y a un travail de résistance et de reprise des codes du cinéma classique pour réussir à faire ces cartoons-là, mais très vite, ils s'abandonnent. Et on le voit chez Chuck Jones et Tex Avery, il y a toujours des moments qui leur échappent, effectivement. Il y a un troisième point que je voulais aborder, qui est peut-être justement un beau point de liaison entre nos communications. C'est que précisément une série d'artistes du cinéma d'animation, je pense par exemple à Len Lai, Norman McLaren, Pierre Hébert, Steve Woloshen, voilà, sont des gens qui se pensent aussi, ou en tout cas il y a des textes qui témoignent de cela, qui sont pensés aussi à certains moments comme des danseurs, comme des performeurs, notamment dans tout ce qui est gravure sur pellicule, hein, où il y a des pages de Len Lai ou McLaren nous expliquent très bien que la gravure sur pellicule demande en effet une espèce d'inscription musculaire chorégraphique qui se retrouve ensuite reproduite et étalée sur grand écran. Et que donc, dans le trait qui est là, pour revenir sur cette typologie des traits, il y a peut-être quelque chose encore d'une pulsion musculaire de l'artiste qui est derrière et qui pourrait enrichir encore ses réflexions.
Merci. Est-ce qu'il y aurait une question dans le public? Une question ou une remarque, hein, ça peut être aussi par rapport à votre propre rapport, le rapport que vous entretenez en tant que spectateur à l'animation. Ce qui nous intéresse aussi, il me semble, hein, c'est de mêler cet esprit. Hein, vous l'avez tous les deux souligné, on a à la fois un plaisir de spectateur à regarder le cinéma d'animation et en même temps le cinéma d'animation nous dit quelque chose de cette pratique de l'image qui est la nôtre. Est-ce qu'on aurait une question dans le public? Je me retourne plutôt vers cette partie du public que je connais, qui sont mes étudiants, et notamment mes étudiants d'animation. Est-ce que ça a éveillé chez eux des questions? Non? Rien du tout? Bon. Écoutez, ah si, merci.
C'est à la commissaire d'exposition. Lorsque j'ai vu l'exposition, la première impression que j'ai eue, c'est que c'était une exposition assez sombre. C'est subjectif, évidemment, mais est-ce que ça s'est révélé petit à petit que la mémoire, la rémanescence, tout ça, c'était forcément angoissant, des mauvais souvenirs?
Il y avait absolument aucune volonté délibérée là-dessus, et je pense pas être quelqu'un de particulièrement sombre. Ce que je peux dire, je vous ai dit tout à l'heure que la moitié des œuvres ont été réalisées depuis 2009. Les artistes, ils vivent dans une époque, ils vivent dans un contexte. Je sais pas si le contexte est tellement joyeux. Et je crois qu'il y a effectivement une inquiétude qui est perceptible dans un certain nombre de ses œuvres. En même temps, je l'ai dit, je crois que l'exposition, et ça m'a été dit aussi par des visiteurs, donc je pense qu'il y a quelque chose de ça qui passe, en tout cas je l'espère. Je crois qu'il y a quelque chose de très humaniste dans cette exposition. Pas humaniste au sens naïf, un peu, j'allais dire un peu cucu, naïf au sens, humaniste au sens véritablement propre du terme, c'est-à-dire de rappel que la richesse principale c'est l'être humain. J'ai pas du tout développé sur le travail d'Alexander Chelot, il faut que vous alliez le voir, sur le travail d'autres, mais moi j'ai été frappée en découvrant, je dirais, les détails des œuvres de cette présence humaine qui est parfois extrêmement discrète mais qui se révèle à un tout petit moment du film, que ce soit le danseur chez Rizzo, que ce soit la personne qui prend soin du bâtiment chez Gerhardt, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors sombre, il n'y a aucune volonté. Bon, alors après, on peut se dire que peut-être les souvenirs dont les artistes ont envie de parler sont des souvenirs traumatisants, mais pas nécessairement. Enfin, il y a plein de choses différentes. Je crois que par contre, il y a un écho d'une inquiétude du monde, d'inquiétude politique, sociale, écologique, qui se manifeste à travers effectivement un certain nombre d'œuvres. Parce que ce ne sont pas des œuvres qui se préoccupent essentiellement de forme ou de technique. Ce sont clairement des œuvres qui parlent du monde qui nous environne. Moi, c'est la seule explication que je puisse vous donner.
C'est vrai que le Kentridge, le détournement du jeu vidéo, ça fait pas mal écho à une situation sociopolitique.
Le Kentridge, c'était il y a 20 ans, mais les riches douaniers, oui. Les riches douaniers, c'est le migrant solitaire, ça. C'est un travail sur la migration. Non, il y a beaucoup de choses qui font écho à des questions sociales contemporaines. Alors, il n'y avait pas de volonté d'être sombre, mais il y avait aussi. Je sais qu'au départ, Pascal Prenier m'avait parlé d'animation documentaire. Personnellement, je n'ai pas souhaité rester dans cette catégorie. Bon, on pourrait. Il faudra un colloque pour définir ce qu'on peut appeler l'animation documentaire. Mais j'ai pas souhaité rester dans une catégorie strictement documentaire. Mais c'est vrai que cette idée, par exemple, de s'écarter du merveilleux, de n'en donner que quelques petites touches très, très succinctes dans quelques œuvres. Et puis je crois aussi que la question de l'évanescence, ben c'est la question de la disparition. La question de la disparition, c'est nécessairement, à un moment ou à un autre, la question de la mort. Et on vient de parler de danse. Moi aussi, je pense au travail chorégraphique de Christian Rizzo, qui est quelque chose que je connais bien. Et il est évident que dans son travail de chorégraphe, l'apparition et la disparition, qui sont toujours totalement indissociables, sont liés à la question de la mort. Mais il dit c'est pas triste, c'est simplement parce que c'est comme au théâtre, c'est le seul sujet. Regardez toutes les pièces de théâtre, elles parlent tous de la mort. Donc cette question-là, à partir du moment où on parle de vision fugitive, à partir du moment où on parle d'évanescence, à partir du moment où on parle de choses dont on se demande quelles traces elles vont laisser, je pense que la question, elle est sous-tendue. Je ne crois pas qu'elle soit aussi appuyée que ça dans l'exposition, mais je pense qu'elle est sous-tendue. Mais c'est pas triste, c'est pas sombre, c'est la vie.
Une autre question peut-être ? On a le temps pour une autre question.
Oui, moi j'en posais une moi. C'est une question sur, depuis quelques années, il y a une démocratisation énorme des logiciels, des appareils photo, de l'apparition du 3D. Donc il y a beaucoup de nouvelles possibilités ou de démocratisation. Et quel impact ça a ? Est-ce que vous voyez des choses, les deux exposés que vous avez faits étaient sur des artistes installés. Est-ce qu'il y a des choses qui sortent, que ce soit dans la partie des traits traînés, tracés, ou dans la partie de la chorégraphie, est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent nouvelles ?
J'ai parlé de ce que j'aimais bien. C'est vrai que c'est une question qui est très souvent posée par des spécialistes et par des non-spécialistes, et par ceux qui sont à l'œuvre, aussi les étudiants, qui sont engagés dans des démarches de création et de recherche. Bien sûr, on peut trouver dans les ressources de nouvelles technologies, à partir du moment où tout se redéfinit à ce moment-là aussi, on peut trouver des problématiques qui rejoignent tout à fait ce qu'on a pu dire les uns les autres. Et les typologies que j'ai proposées pourraient être tout à fait pertinentes pour l'analyse de films de Miyazaki, mais tout aussi bien pour certains courts extraits de certaines productions Pixar. On peut arriver à trouver des choses, oui, bien sûr. Maintenant, c'est la question de ce que l'on problématise, moi qui m'intéresse, et de la capacité que les réalisateurs ou cinéastes ont d'inventer véritablement. Inventer, comme tu l'as rappelé. C'est-à-dire se fixer de nouvelles lignes de conception qui permettent, pour répondre précisément à la question, d'associer autour du terme même de l'innovation, hein, qui est impliqué, une innovation esthétique et une innovation technologique. Si on le prend ainsi, à ce moment-là, ça peut devenir quelque chose d'intéressant, qui ne soit pas, à ce moment-là, une manière de toujours, de façon incessante, mais pas très heureuse, à mon sens, de réembrayer sur le réel et sur des processus trop bien connus. Voilà. Donc, les étudiants, enfin, moi, je suis des projets d'animation, c'est vrai qu'on se pose la question dans les séminaires, lorsqu'on suit les projets, les étudiants vont très rapidement vers ces poétiques dont j'ai parlé, de l'incertain, du chaos, de l'instabilité, de l'indéterminé, c'est-à-dire comme étant des possibilités, des à la recherche de motifs d'altération, des motifs... Voilà. Et la technologie, aujourd'hui, permet, dans les démarches de création numérique les plus innovantes, autorise, permet cela, et offre un champ de possibilités incroyables. On en voit ici. Donc, c'est pas être rétif hein, à ces ressources-là, bien, en, bien au contraire, mais à condition de partir d'un présupposé d'articulation qui prend aussi à partie la dimension esthétique et ses ressorts poétiques avec ces nouvelles technologies.
Oui, monsieur. Oui, moi, si je veux également répondre à ta question, Christophe, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que comme on côtoie des étudiants, moi, j'ai un certain nombre d'étudiants qui régulièrement m'envoient des liens de sites internet de non-artistes dans le sens où ne sont pas des personnes reconnues, mais des gens qui font des films avec leur téléphone portable. Alors, voilà, bien équipés qu'ils puissent être. Alors voilà, certains ont le fameux Nokia qui permet de faire de l'animation, d'autres juste bidouillent avec leur smartphone. Mais il y a un certain nombre de travaux qu'on trouve sur Internet qui sont extrêmement intéressants et qui rentreraient tout à fait dans les cadres qui sont les vôtres. Parce qu'il me semble, les cadres que vous proposez sont vraiment constitutifs de l'animation. Ce n'est pas des cadres que vous plaquez sur le cinéma d'animation. C'est en ça que votre travail m'intéressait aussi. Ce sont des cadres qui émanent d'une étude précise de ce qu'est l'animation, d'une recherche, d'une identité de l'animation, malgré son éclectisme, malgré l'hétérogénéité de ses pratiques. Donc du coup, les cadres que vous proposez, ils rentrent très facilement, ils pourraient rentrer très facilement dans l'analyse d'œuvres qui ne sont pas des œuvres d'artistes connus, mais d'œuvres de personnes qui, comme maintenant on peut le faire tout un chacun, utilisent les logiciels que l'on peut télécharger gratuitement sur Internet ou qui utilisent les différentes applications de leur smartphone. Donc il n'y a pas, je suis d'accord, il n'y a pas rejet de ces travaux-là. C'est juste que après on a aussi une vocation qui est une vocation d'enseignant et donc d'exemplarité, c'est-à-dire d'aussi montrer des œuvres qui ont permis de constituer l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai que maintenant, on est aussi un peu obligé de travailler, on le fait avec bonne grâce, hein, mais de travailler avec des œuvres qui sont de véritables œuvres, mais qui sont des performances ou des travaux de personnes que l'on ne connaît pas. C'est aussi la grande possibilité d'Internet, cette ultra-diffusion. Donc ça vient à la fois de l'émergence de logiciels gratuits ou d'outils de fabrication, soit gratuits, soit tout à fait abordables parce que non professionnels, mais aussi cette immense diffusion qui permet à ces œuvres d'être faites dans son garage ou dans sa chambre, mais d'être absolument diffusées partout.
Oui, mais de fait, cette démocratisation, moi je pense qu'elle a quand même changé pas mal de choses. Les quelques cadres théoriques qu'on a pu proposer ici fonctionnent toujours, mais je pense que chaque film que l'on voit oblige toujours à faire un petit retravail de recadrage en même temps. C'est quelque chose d'assez propre, je pense, au cinéma expérimental, au cinéma d'animation. C'est que la singularité de chaque œuvre est telle qu'elle demande à petite adaptation du cadre théorique. Sinon, cette apparition des nouveaux outils, et particulièrement numériques, et cette grande démocratisation, a pour moi considérablement bouleversé le champ. À la fois parce que ça a donné de nouveaux outils et donc de nouvelles écritures aussi, donc ça nous oblige à nous remettre en question, de nouvelles manières de travailler, de nouveaux types d'artistes avec d'autres référents culturels aussi, donc ça bouleverse pas mal de choses, mais surtout, comme Jessie vient de le dire, c'est la circulation de ces œuvres qui est très intense. Et je pense que la mise de ces œuvres sur Internet, leur circulation, les réseaux, a participé aussi notablement à, depuis une dizaine d'années, ce grand mouvement de redécouverte de l'histoire du cinéma d'animation. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de curiosité pour les images en mouvement qui étaient là avant, et ça va très très vite, quoi. Ça circule. Moi, j'ai vu, en faisant parfois quelques workshops dans des académies, que je suis en train de parler d'un film historiquement, ils sont déjà en train de télécharger son ordinateur pendant que j'en parle, ils l'ont vu, on le commente ensemble, et ils le réintègrent dans l'animation flash qu'ils sont en train de faire 10 minutes après. Donc il y a là comme ça un recyclage de formes absolument incroyable. Donc je pense que oui, cette démocratisation a pas mal bouleversé le champ de l'animation.